Il est 20h, vous êtes bien sur Radio Campus Paris, vous écoutez Feu d'Artifice sur le 93.9 FM.
Feu d'Artifice, le magazine qui met un doigt dans la culture. Des artistes contemporains, des artistes moins contemporains, et parfois des contemporains. Un samedi par mois à 20h, sur Radio Campus Paris.
Bonsoir et bienvenue dans Feu d'Artifice, l'émission qui met un doigt dans la culture. Et bonsoir Simon.
Bonsoir, gâteau programme ce soir. Nous recevons Jérémy Partinico, créateur du jeu de société Dictopia, un jeu de lettres édité par Subverti que vous pouvez retrouver dans les bonnes boutiques. Mais ce n'est pas tout, puisque l'émission sera bien sûr entrecoupée de recommandations diverses et variées d'Agathe et moi-même, avant de conclure le programme par le culte quiz de notre ami André, qui est un petit peu notre créateur de jeux de société à nous, nos jeux de société radiophoniques. Salut André, tu veux dire bonjour ?
Bonsoir.
Bonsoir.
Feu d'Artifice, c'est jusqu'à 21h sur le 93.9 et ça commence maintenant. Bonsoir Jérémy Partinico, tu es le créateur du jeu de lettres Dictopia, illustré par Johan Brogol et édité par la maison d'édition indépendante de jeux de société engagée Subverti. Dictopia est un jeu de lettres intense tout en étant accessible, un jeu de lettres qui déjoue les codes du jeu de lettres classique comme le Scrabble par exemple.
Bonsoir.
Bonsoir à vous, et déjà pour commencer, merci déjà de m'accueillir, c'est vraiment une joie immense de pouvoir discuter avec vous.
Et merci à vous d'avoir accepté notre invitation.
Alors du coup, on a trouvé ton jeu, on a présenté ton jeu de manière assez sommaire. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus ? Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ?
Oui, bien sûr. Alors, c'est effectivement un jeu de lettres, mais c'est surtout un jeu d'ambiance. C'est-à-dire qu'on va casser un peu le code du jeu de lettres classique, on va vraiment sortir de ça. On va faire des mots, mais pas n'importe lesquels. Il va falloir rentrer dans certaines catégories pour faire des points. C'est un jeu qui a été inspiré un petit peu par le livre 1984 de George Orwell. C'est un jeu qui va donc parler de la censure, la liberté d'expression. On va parler du sens des mots. Donc au-delà de faire un jeu de lettres classique, c'est aussi un jeu, donc, comme je disais, un jeu d'ambiance où on va discuter.
Bah justement, tu parlais de ton inspiration de 1984 de George Orwell. À quel moment tu as eu envie de transposer certains éléments du livre ?
Alors, en fait, au tout départ, hein, l'idée, elle est venue de la mécanique du jeu. Au début, la mécanique du jeu, c'était vraiment de rester sur un jeu de lettres classique. Et puis, au fil du développement, au fil de l'expérience de jeu, c'est un travail qu'on a fait avec l'éditeur, on voulait thématiser ce jeu pour un peu dépoussiérer, se démarquer des autres jeux de lettres. Et on est tombé sur plein de thèmes, on est tombé sur le thème du rêve dans un premier temps, et puis après, au fur et à mesure du développement du jeu, on se dit, mais c'est marrant, on va parler du sens des mots, pourquoi ne pas le traiter dans la censure ? Et après, on a vraiment orienté cette direction artistique, on va dire, vers cette direction, parce que c'était vraiment, ça a pris sens en fait. Donc c'est vraiment en développant le jeu que l'idée est venue.
Et tu peux nous parler un peu du choix des illustrations ? On a vu le jeu, on l'a partagé sur nos réseaux sociaux, nos auditeurs pourront le découvrir plus tard. On peut y voir par exemple des caméras de surveillance, des masques. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça ?
Oui, bien sûr. Alors, en fait, pour illustrer, on est parti sur le masque de Guy Fawkes. C'est le masque qui a été créé donc par Guy Fawkes lui-même au XVIIe siècle. C'est un signe de révolution, hein, donc c'est pour ça ça fait partie du jeu, parce que c'est un signe fort de la révolution. Après, les yeux, tout simplement par rapport à la surveillance. Donc dans 1984, tout est surveillé, c'est pour vraiment marquer ce point-là. Dans le thème du jeu, en fait, c'est un groupe de résistants qui nous envoie des défis. Donc on a un certain nombre de défis à remplir, et celui qui va au mieux remplir les défis va rejoindre la résistance. Voilà un petit peu dans la thématique du jeu.
Et justement, tu disais que c'était un peu un travail collaboratif, donc notamment avec l'éditeur qui est Subverti, mais même sur le design du jeu, tu as travaillé avec Johan Brogol, l'illustrateur à l'illustration. Comment vous avez travaillé ensemble sur le choix des dessins, plus d'un point de vue
création artistique.
D'un point de vue création artistique, exactement. Donc vous aviez tous ces motifs justement du masque, les caméras de surveillance. Comment vous avez plus sur le côté design pour le rendre accessible ou
À quel point ça avait été un travail à deux mains ou à une main?
Alors, en fait, c'est un travail avec beaucoup plus de mains que ça. Vous allez voir, on a une façon un peu, ils ont une façon un peu originale. Hein. On a une façon originale un peu de travailler ça. Parce que bon, tout départ, on avait une mécanique forte du jeu. Et quand est arrivé ce thème-là, on a commencé, enfin, ils ont commencé à faire quelques illustrations avec un peu mon, voilà, moi j'ai pu collaborer avec eux pour l'illustration. Mais en fait, on a un groupe Facebook qui s'appelle Dictopia, groupe francophone, communauté francophone. Et on a tout simplement proposé des designs directement de boîtes, directement sur le groupe. Et les gens ont pu voter. Donc, on est parti donc très rapidement sur le thème avec les yeux. Mais pas seulement, il y avait une boîte aussi avec le masque de Guy Fox. Il y avait d'autres illustrations et on a tout simplement fait voter les gens pour le meilleur choix. Tout simplement.
C'est donc le public qui participait aussi à l'élaboration du jeu.
Exactement. Suverti est un éditeur indépendant et assez engagé. Et ils aiment bien aussi fédérer et créer une communauté qui va participer un petit peu à l'élaboration d'un jeu, à la sortie d'un jeu. Et c'est pour ça qu'ils sont partis sur pourquoi pas faire voter directement les gens, comme ça on aura un avis direct du public. Et voilà, je trouve que c'était un parti pris assez intéressant. Moi, ça m'a beaucoup plu en tout cas de faire ça.
Et ça, on le note justement, même dans les précédents jeux de la maison d'édition, il y a eu le jeu Révolution, il y a eu le jeu Climato, donc on voit vraiment cette forme d'engagement qui est propre à cette maison. Est-ce que cette idée de vouloir faire réfléchir le joueur tout en étant diverti, c'était vraiment important pour toi, important pour vous, important pour les futurs joueurs?
Alors, moi, à la base, c'est vrai que je suis un très jeune auteur de jeu, parce que c'est mon premier jeu édité, il y en aura d'autres par la suite. Mais c'est vrai que je suis sensible à ces genres de questions. Et là, de tomber sur mon premier éditeur avec qui j'ai pu collaborer, qui avait cette sensibilité-là, moi, pour moi, c'était vraiment génial, parce que j'ai cette sensibilité-là. Et d'ailleurs, c'est comme ça aussi, quand j'ai joué au jeu Révolution Climato, j'ai vu leur ligne éditoriale, et ça m'a beaucoup plu. Et quand j'ai proposé le jeu, au début, je pensais pas que ça pouvait rentrer dans leur ligne éditoriale, mais en fait ils ont tellement aimé la mécanique qu'ils ont dit mais non, si le jeu nous plaît, on va tout faire pour le faire rentrer dans notre ligne éditoriale. Et puis c'est comme ça qu'on a dû y trouver les idées, et quand les idées sont venues, c'était vraiment chouette on a pris une direction qui était vraiment cool quoi.
C'est intéressant ce que tu nous racontes, Jérémy, sur justement ce côté. D'abord, tu avais une mécanique de jeu et après, vous y avez mis, en collaboration avec l'édition, avec la maison d'édition, vous avez mis des thèmes sur le Big Brother, le capitalisme de surveillance, comme on peut l'appeler aujourd'hui. Justement, au départ, toi, le Dictopia, c'était aussi un jeu pour reprendre des mécaniques que tu trouvais ennuyeuses, notamment celle du Scrabble. Est-ce que tu peux nous en parler aussi un petit peu?
Alors, tout simplement, la première idée vraiment qui est venue, c'est en jouant au Scrabble, tu te dis, mais même si j'ai 7 consonnes, mais qu'est-ce que je peux faire? Je peux pas faire de mots. Et en fait, l'idée, je me suis dit, mais pourquoi ils n'ont pas fait des tuiles avec une consonne et puis de l'autre côté, une voyelle? Et puis l'idée est partie de là. Donc, j'ai dit, je vais créer des cartes avec une consonne et une voyelle. On a 8 cartes lettres en main. On peut toujours faire des mots. On peut toujours s'en sortir parce qu'on a autant de consonnes que de voyelles. On va pouvoir toujours faire des mots. Et ensuite, petit à petit, je me suis dit, tiens, il va falloir un peu élaborer, trouver d'autres mécaniques pour l'enrichir encore. Et ensuite, il est venu l'idée, alors au début, aujourd'hui, il y a des yeux sur chaque lettre, mais avant, il y avait tout simplement des chiffres. Il y avait 1, 2, 3, chaque lettre avait une valeur. Et il fallait trouver un mot qui ait une valeur exacte, une valeur donnée, par exemple, une valeur de 10. Il faut trouver un mot avec les lettres pour arriver à 10 points exactement. Et ce n'est qu'après qu'on ait trouvé le thème en fait, de la censure de la liberté d'expression, de 1984, qu'on a eu l'idée de mettre plutôt des yeux. Et il faut compter les yeux pour savoir le nombre de personnes qui nous surveillent. Donc voilà, à la base, on avait une mécanique forte, et après, on a donc développé une thématique autour de cette mécanique.
Vous avez politisé le jeu après en avoir trouvé le concept.
Exactement,
d'une certaine manière.
Exactement. Alors c'est une démarche qui n'est pas du tout anodine. Hein. Souvent, en tant qu'auteur de jeu, on va présenter un jeu avec un thème. Il faut pas du tout être attaché au thème quand on est auteur de jeu, parce que très souvent l'éditeur va vouloir d'un point de vue marketing, d'un point de vue commercial, d'un point de vue ligne éditoriale, il va vouloir y mettre sa patte, et souvent il va donc thématiser par rapport à ce que lui et comment il voit les choses. Et il s'avère que avec Subverti, on s'est très bien entendu sur ce point de vue là parce que j'aime leur ligne éditoriale en fait. Révolution, je trouve que c'est un jeu vraiment très bien, et Dictopia, ils ont vraiment réussi à le rendre attrayant. Et très intriguant aussi, c'est très intriguant. Quand on voit la boîte noire avec des yeux, on n'imagine pas un jeu de lettres à côté, quoi. On n'imagine pas la sensation qu'on peut avoir quoi, derrière.
Et le jeu, justement, il est accessible dès un assez jeune âge, dès 10 ans. C'était important pour toi de faire un jeu accessible dès un plus jeune âge, dans une veine un peu d'éducation ludique, peut-être ?
Alors, exactement. Alors, on a eu vraiment la question de savoir si on pouvait le mettre à 8 ans, parce qu'on peut jouer à 8 ans, hein, du moment qu'on sait lire et écrire, on va pouvoir jouer à 8 ans. Donc on a quand même mis 10 ans, parce que à 8 ans, on risque peut-être d'être un peu déstabilisé, de ne pas forcément marquer beaucoup de points. Malgré tout, ça reste un outil ultra pédagogique, c'est-à-dire que si on adapte les règles, si on adapte, du coup, on s'adapte à l'enfant, on va pouvoir s'en servir comme outil pédagogique. Et c'est d'ailleurs le cas, on a déjà eu un mot d'une orthophoniste qui l'utilise pour des ateliers avec ses enfants. Et alors là, ça, c'est une des plus belles récompenses que j'ai pu avoir. Vraiment, ça fait vraiment chaud au cœur de voir que notre outil et notre jeu sert d'outil pédagogique. C'est vraiment, vraiment génial, quoi.
Et aussi par rapport à cette question d'éducation ludique, donc de faire un jeu, de créer un jeu accessible dès 8 ans, ce qui est un âge assez jeune par rapport aussi aux thématiques du coup qui sont traitées dans le jeu, enfin à travers Dictopia, à travers son design. Est-ce que aussi c'était une volonté, je ne sais pas si c'est la tienne ou plus celle de l'éditeur ou pareil conjointement, parce que ça a l'air quand même d'être un travail extrêmement collaboratif aussi sur le choix, sur les choix philosophiques, si je puis dire, qui sont abordés dans le bouquin. Est-ce que l'idée aussi c'était de faire contrepoids avec des jeux, avec la majorité des jeux qu'on propose aux enfants qui font la promotion d'autres valeurs, notamment avec le Monopoly, avec la politique du capitalisme rentier, des trucs comme ça. Enfin, peut-être que je surpolitise cette démarche, mais est-ce qu'il y avait aussi une volonté comme ça d'avoir un contrepoids, entre guillemets, un contre-pouvoir culturel. Je ne sais pas si ça se dit, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous aviez pensé comme ça.
Alors, en fait, c'était là où on parle d'enfants, mais on n'avait pas vraiment pensé à ce genre de cible. Mais par contre, non, on avait vraiment une volonté de faire interroger les personnes sur la liberté d'expression et surtout le pouvoir des mots. Le pouvoir des mots, on va discuter du pouvoir des mots dans le jeu. Parce que, par exemple, quand on a une contrainte de rentrer un mot dans une catégorie, par exemple, il y a une contrainte qui est de faire un mot avec le champ lexical du corps humain, donc un mot qui a un rapport avec le corps humain, et bien là, il va y avoir des débats sur certains mots. Est-ce que ce mot-là, justement, rentre vraiment dans le champ lexical du corps humain ? Et c'est ça qu'on a voulu faire, c'est-à-dire que parler, resituer, parce qu'aujourd'hui, on a vraiment appauvri notre langue, on n'utilise même pas 10% des mots de la langue française. C'était aussi pour s'interroger sur comment on peut améliorer notre vocabulaire également, comment on peut parler du sens des mots. Et c'était plus dans cette catégorie-là, mais on a visé beaucoup plus large que les enfants, au final. Les enfants, comme les adultes, vont pouvoir discuter de ça.
Oui, ça, c'est un thème qu'on retrouve énormément dans le roman de George Orwell, 1984. Jérémy, fait, oui. Vous restez avec nous. On continue de parler de Dictopia juste après une pause musicale.
Parfait, merci. Thank you.
À l'instant, vous venez d'entendre Dreams, un titre de The Cranberries sur Radio Campus Paris.
Vous écoutez Feu d'Artifice sur Radio Campus Paris.
Il est 20h16, on est toujours avec Jérémy Partinico, auteur de Dictopia, un jeu de lettres aux airs de 1984, édité par Subverti Games. Il ne vous aura pas échappé que vous venons d'écouter un morceau de The Cranberries, qui n'est autre qu'un célèbre groupe irlandais, et le monde est petit, puisque tu nous emmènes en Irlande, Agathe, avec ta recommandation.
Et oui, tout à fait. Pour ma recommandation ce soir, j'avais envie de vous parler cinéma et du film Belfast, réalisé par Kenneth Branagh en salle actuellement. Réalisateur notamment de nombreuses adaptations de pièces de Shakespeare au cinéma ou encore de romans d'Agatha Christie comme récemment Le Crime de l'Orient Express ou Mort sur le Nil qui va paraître bientôt.
Qui est sorti déjà.
Belfast, librement inspiré de l'enfance du réalisateur, le film nous plonge dans l'Irlande de la fin des années 60. On suit un petit garçon nommé Buddy et la vie de sa famille protestante d'Ulster alors que l'Irlande est en prise avec les Troubles. L'action se situe dans les quartiers nord de Belfast, lieu de vie de la classe ouvrière dans ces années-là. Déchiré entre l'innocence de l'enfance et l'horreur du conflit, livré à travers les yeux de cet enfant curieux, le film ne prend pas réellement parti, mais nous livre un récit sublime qui m'a personnellement saisi en plein cœur. Preuve d'un certain témoignage historique sur le courage des résidents d'Irlande pendant une période trouble, le film est aussi la démonstration du talent de Kenneth Branagh en tant que réalisateur. Il nous livre une mise en scène remarquable grâce à des mouvements caméra brillants. L'ensemble est sublimé par un usage du noir et blanc totalement pertinent tout au long du film, qui permet une certaine prise de recul et temporise d'une certaine façon la violence des Troubles dépeinte dans certaines scènes du film. Niveau casting, on note la présence de la légendaire Dame Judi Dench, de Jamie Dornan, et je tenais particulièrement à souligner la prestation touchante de Katrina Balf, excusez-moi si je prononce mal son nom, très touchante en mère de famille et véritable symbole du courage de la population de ces années-là. Prix du public au Festival International de Toronto, meilleur film britannique au BAFTA et meilleur scénario pour Kenneth Branagh aux Golden Globes, Belfast poursuit sa route jusqu'aux Oscars, où il est nommé dans plusieurs catégories, dont entre autres celle du meilleur film ou encore de la meilleure réalisation. Alors courez rapidement voir le film Belfast de Kenneth Branagh en salle actuellement et laissez-vous transporter dans un passé troublé mais bouleversant.
Merci Agathe pour cette recommandation. Allez voir encore Belfast au cinéma, il y a encore. Et puis on va voir ce dimanche, dans la nuit de dimanche à lundi, quel prix il pourra remporter aux Oscars, puisque il me semble que c'est dans la nuit entre dimanche et lundi, tout simplement, sinon je n'aurais pas dit ça. On revient avec Jérémy Partinico sur Dictopia, son jeu de lettres, son premier jeu de société qui a été financé à travers une campagne de crowdfunding. Jérémy, est-ce que c'était important pour toi et pour l'équipe d'impliquer le public jusqu'au financement du projet? Parce qu'on a parlé avant la pause musicale déjà de l'implication des joueurs et des joueuses dans le choix des designs. Est-ce que dans le financement aussi c'était important d'impliquer les potentiels participantes et participants à ce jeu?
Alors oui, c'est vrai que c'est la maison d'édition Subverti a pour habitude de financer la production de ces jeux par ce biais. On a fait un an de festival pour faire bien découvrir le jeu. On donnait rendez-vous aux joueurs et aux joueuses donc de se dire, ben voilà, vous avez au mois de décembre l'opération de crowdfunding, ne l'oubliez pas. On avait un objectif c'est marrant parce qu'il avait mis comme objectif 1984 euros. Et on avait 3 semaines pour les atteindre, pour pouvoir faire fabriquer les jeux. On s'attendait à faire un peu plus et au final ils ont récolté plus de 20 000 euros. On a même récolté le prix du membre du jury de Ulule directement parce que c'était sur la plateforme Ulule. Et donc ça c'était une super surprise en tout cas, et c'était vraiment, vraiment génial. Sachant que l'objectif aussi c'était de produire, parce que les jeux que produisent donc Subverti sont des jeux éco-responsables.
Justement, on allait y venir, tu peux nous en dire un peu durable. Plus.
Donc voilà, ça aussi ça a permis de produire ce jeu comme ça aussi.
Donc comme tu l'as dit, le jeu donc est éco-fabriqué. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'était vraiment un engagement qui vous tenait à cœur au sein de la maison d'édition Subverti?
Et en fait, pour l'instant, 100% des jeux sont fabriqués ainsi. En fait, il faut savoir que 95% des jeux aujourd'hui sont fabriqués en Chine, en Asie. Et la maison d'édition Subverti fabrique localement les jeux et surtout avec le label FSE et surtout ils ont le label Eco-Friendly.
Oui.
Eco-friendly games, donc en fait avec l'absence de plastique par exemple dans le jeu, sachant qu'au début il y avait un sablier et donc il a fallu faire preuve d'imagination pour enlever ce sablier. Le plastique qui enveloppe le jeu n'est pas fait en plastique mais il est fait à base de maïs. Et le papier et les cartons qui sont utilisés sont faits à partir de forêts entretenues de façon durable avec ce label FSE. Voilà, par exemple.
Et tout ça, justement, tous ces matériaux, si je ne dis pas de bêtises, proviennent de pays de l'Union européenne.
Absolument.
Et justement, à quel point ça se démarque du monde des jeux de société ?
Alors, aujourd'hui, le monde du jeu, quand même, tend à changer. Il y a quelques éditeurs qui ont commencé à être sensibles sur la question, mais c'est loin d'être la majorité pour l'instant. Mais je pense et j'espère que les choses vont évoluer. C'est d'ailleurs une des missions de Subverti, c'est de faire évoluer le monde du jeu dans le sens large du terme, d'un point de vue ludique, mais aussi d'un point de vue fabrication, d'un point de vue éditorial, etc. J'espère que ça va inspirer d'autres, en tout cas.
Et justement, tu disais notamment, par exemple, qu'il était question d'y avoir de mettre un sablier dans le jeu Dictopia, et que du coup, pour des questions écologiques, exactement, tu as dû le retirer au moment de la fabrication, et du coup, ça a bouleversé un peu la mécanique. Justement, pour l'instant, l'éco-fabrication de jeux de société, ça implique une économie de moyens, notamment, comme on l'a dit à travers cet exemple, et c'est une question qui doit être très prenante dans le monde du jeu de société aujourd'hui, parce qu'il y a aussi pas mal de beaux jeux qui sont des plus gros objets avec des figurines, avec là je pense un de mes jeux préférés par exemple s'appelle Yggdrasil, c'est un jeu de coopération avec un plateau sur 3 étages, donc qui prend évidemment beaucoup plus de moyens à éditer qu'un jeu comme les jeux édités par Subverti. Est-ce que, à ton avis, je sais pas si tu as un avis sur la question, mais est-ce qu'il va falloir renoncer à ce type d'objet ou là on est juste dans une période un petit peu de transition vers un moyen de fabrication un peu plus durable et responsable, et du coup on pourra à terme refabriquer de manière écologique d'autres objets, par exemple pour faire des sabliers un jour, mais en éco-responsable.
Alors déjà au niveau du matériel, si le jeu est excellent et que les matériaux, on peut je pense avoir beaucoup de matériel, mais fabriqué de façon, on va dire, éco-responsable, je pense que c'est tout à fait possible. Ce qui ne l'est pas, et c'est là-dessus où moi je vais insister beaucoup, beaucoup, moi je suis très très déçu par certains éditeurs qui vont éditer des jeux qui vont faire 20 cm par 20 cm avec 5 cm de hauteur, et à l'intérieur il y a un paquet de cartes avec 20 cartes, avec énormément de vide. Et pour combler ce vide, ils vont y mettre un plastique thermoformé pour pouvoir mettre au cœur les 20 cartes, quoi. Tout simplement pour justifier un certain prix d'un jeu. Pour le vendre un peu plus cher, le consommateur va avoir l'idée d'avoir la taille de la boîte. C'est la taille du jeu qui va donner un peu le prix.
Oui, il y a un côté marketing aussi là-dedans. Justement, de donner l'impression dans un magasin, plus le jeu est gros, plus un client le regarde. Ouais.
Et surtout, plus ça va justifier le prix à 20€ ou 25 ou 30€. Aujourd'hui, un jeu qui coûte peut-être 50 ou 60€, qui a beaucoup de matériel, mais quand on ouvre la boîte, il est bien, bien, bien rempli, et puis c'est justifié par rapport à la mécanique de jeu. Moi, je vais pas m'indigner sur ça, pas du tout, hein, je suis pas du tout contre ça. Par contre, je trouve un peu dommage d'avoir des jeux qui, comme je vous dis, qui ont une taille assez importante, et en fait, à l'intérieur, il y a un tout petit paquet de cartes, quoi. Ça, par contre, vraiment, c'est vraiment pas du tout éco-responsable, parce que dans un carton, on va mettre 10 jeux, enfin, ça va augmenter le prix des transports, il y a tout qui va être impacté à cause de ça. Et ça, moi, je pense qu'il faut vraiment lutter contre ça en priorité.
Mais est-ce que tu penses, pour toi, du coup, comme tu l'as dit, que c'est plus dur de proposer un jeu plus compact, comme les Dictopia, à un prix standard ? Est-ce que c'est plus difficile, tu penses, du coup, de convaincre un potentiel acheteur ?
Oui, je pense, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui un changement profond de la société qu'il faut faire. Je pense qu'aujourd'hui, les gens vont effectivement avoir ce réflexe d'avoir, tiens, qu'est-ce que j'ai comme matériel, quelle taille fait la boîte. En fait, il ne faudrait pas du tout regarder ça. En fait, il faudrait regarder la qualité du travail qui a été fait au niveau création, parce qu'on va surtout payer le temps de création du jeu, et ensuite ne pas forcément absolument se focaliser sur la taille de la boîte ou même le matériel. Et il faudrait qu'on évolue là-dessus, plus sur la qualité du développement du jeu, et ça, c'est pas encore fait, quoi. C'est pas gagné.
Bien sûr. Et au niveau des distributeurs, justement, des boutiques spécialisées, elles le voient comment, selon toi, ce changement vers lequel votre maison d'édition tend, c'est-à-dire de faire des jeux dans une logique de fabrication beaucoup plus durable et vraiment de rémunérer le temps de création, comme tu l'as dit?
Ben, pour l'instant, l'expérience que j'ai, je trouve que les choses évoluent, mais vraiment très lentement, quand même, hein. Il y a certaines boutiques qui vont être sensibles à ça, mais pour vous donner une idée, hein, il sort à peu près 1000 jeux de société par an.
D'accord.
Donc vous imaginez pas comme c'est énorme.
En termes de type de jeu de société ou de quantité de, d'un seul jeu ou de...
C'est 1000 jeux différents par an. Ouais, qui sort, et c'est beaucoup en fait. Hein, donc les boutiques ont d'autres problématiques. C'est vrai qu'ils ne s'occupent pas trop de ce côté-là, marketing, de réduire l'impact, tout ça. Un petit peu, il y a certaines boutiques par exemple qui distribuent, qui essayent pas de distribuer des poches. Il y a quelques petites choses, mais ça reste quand même vraiment pas encore au niveau quoi, de ce qu'on pourrait faire.
On salue en tout cas votre engagement que vous avez à la maison d'édition Subverti de faire des jeux plus durables.
Et oui. Effectivement, justement, comment tu, pour revenir un petit peu à la question de comment de la difficulté à proposer un jeu plus compact, est-ce que tu as eu des retours aussi de la maison d'édition Subverti avec leurs jeux précédents ? Donc je rappelle Révolution et Climato.
Oui. Non, alors là-dessus, je ne sais pas trop leur retour, mais... Non, le jeu, il se vend bien parce que la promesse, elle est vraiment, vraiment bien, elle est au rendez-vous. Les gens qui vont être attirés par ces jeux-là vont avoir cette sensibilité-là aussi. Donc, ça ne va pas forcément trop les déranger. Donc, heureusement qu'ils ont cette ligne éditoriale avec des thèmes très forts. Et les gens qui sont sensibles à cette démarche-là ne vont pas forcément regarder justement la taille de la boîte. Ce genre, ils vont avoir peut-être d'autres réflexions.
Oui, on va continuer d'avoir d'autres réflexions sur les jeux de société avec toi, Jérémy Partinico. On continue de parler de Dictopia et donc plus généralement de jeux de société. Après cette musique, vous écoutez Feu d'artifice.
Oui, la presse.
La أعطى التنفس
C'est le cavalier riant de Cyril Cyril sur Radio Campus Paris. Il est 20h, 32 minutes et 06 secondes.
Feu d'artifice, le magazine qui met un doigt dans la culture.
Feu d'artifice, une émission à la pointe de l'heure.
On est toujours avec Jérémy Partinico en plateau. On parlait avec lui d'éco-fabrication pour son nouveau jeu de société Dictopia. Mais la culture, ce n'est pas seulement de l'écologie, c'est aussi de la politique.
Tout à fait, Agathe. Et ça tombe bien puisqu'il se trouve qu'on est à 2 semaines de l'élection présidentielle. Et pour ma part, et peut-être que vous aussi qui écoutez Radio Campus Paris, tout est politique, y compris la culture, sinon vous n'écouteriez certainement pas Radio Campus Paris. Pourtant, politique et culture font rarement bon ménage dans le débat public, quel que soit le type de scrutin auquel les Françaises et les Français sont invités à voter. Les politiques culturelles sont peut-être considérées comme non essentielles par les médias, préférant concentrer le débat sur des sujets légitimes, comme le travail, ou d'autres sujets dictés par un certain clivage qu'on ne nommera pas pour des questions de temps de parole. En tout cas, plus que jamais, la culture est politique au sens de son organisation, de sa pratique et de son accès, ou encore du statut de ses travailleuses et travailleurs. Et ça, des institutions comme la SACD l'ont bien compris, la Société des auteurs et des compositeurs dramatiques, qui gère entre autres la répartition des droits d'auteur en France, a publié début février un texte intitulé Présidentielle 2022, une ambition pour la culture. Une série de propositions à partisanes et à disposition des candidates et candidats au poste suprême qui couvrent la question des politiques culturelles au sens large, de la démocratisation de l'accès à la culture, à une nouvelle Europe de la culture, en passant par le spectacle vivant, une politique du cinéma, mais aussi des auteuristes. Ça, c'est pour les thèmes de cette ambition pour la culture, au sein desquels on trouve pêle-mêle un besoin de refonder la politique du pass culture qui a été mise en place pendant le quinquennat qui vient de s'écouler, de le refonder autour de la diversité et de la découverte plutôt que la consommation, celui de mettre l'exception culturelle européenne à l'abri des négociations commerciales ou encore la protection et la sécurisation des droits d'auteur. Protéger les auteurs étant, et ça je le rajoute, plus qu'urgent face à la menace des plateformes de streaming, parce que oui, d'un point de vue de rémunération des auteurs, les Spotify ou les Netflix sont une menace, les néophages de Friends, ça va Agathe ? Présidentielle 2022, une ambition pour la culture, des propositions que vous pouvez consulter sur sacd.fr et c'est un excellent complément parmi tant d'autres qui ont été faits par d'autres institutions à 2 semaines du scrutin, un excellent complément au programme culturel des candidates et candidats à la présidentielle. Des programmes culturels qu'on vous invite bien sûr à lire en plus des programmes en général, histoire que vous sachiez à quelle sauce nos artistes vont être mangés.
Merci Simon pour cette chronique légèrement politique.
Un poil.
On parle maintenant de Dictopia avec Jérémy Partinico. J'avais une question pour vous, Jérémy. On note aujourd'hui que le jeu de société est un divertissement à part entière. Le jeu vidéo, le jeu de rôle ont par exemple été élevés au rang d'art. Cependant, le jeu de société, pas vraiment. Qu'est-ce que t'en penses ?
Ah, mais ça, je suis très content que ce sujet vienne sur le tapis.
C'est une grosse question.
En tant qu'auteur de jeu, effectivement, on est déjà, il n'y a aucune reconnaissance. Il y a très peu d'auteurs de jeux qui sont connus. Hein. Je ne sais pas si vous êtes capable, vous, là, de me citer.
Théoriser.
Des auteurs de jeux.
Là, comme ça, pas vraiment.
Ouais, c'est pas évident. On n'est pas du tout mis au devant de la scène. On est vraiment les oubliés sur les boîtes de jeux. Il y a notre nom, et c'est depuis très récemment. Et surtout, pourquoi ? Alors, parce que le jeu de société a été longtemps considéré comme un jouet. C'est un jouet. Et en fait, on est en train de se battre déjà avec la Société des auteurs de jeux, donc la SAGE, pour faire reconnaître le statut d'auteur et d'autrice et surtout faire rentrer le jeu de société comme objet culturel. Et bon, c'est en cours.
Et comme objet artistique aussi, de fait.
En train d'évoluer tout doucement, encore comme d'habitude, mais elle évolue quand même.
Parce que c'est vrai que le jeu de société, ça a aussi le seul contact dans la culture dominante, entre guillemets, c'est quand il s'agit de faire du marketing, donc que ce soit avec des personnalités, des artistes ou même des sociologues comme les Pinsons Charlot qui ont publié un jeu qui s'appelle Capital, mais même des artistes qui publient des jeux de société dérivés de telle ou telle franchise, par exemple des dérivés du Cluedo avec toutes les marques de séries policières ou autres, ou sinon pour publier des jeux de cartes à l'effigie de certains artistes. Quand il y avait eu l'exposition Tim Burton, on a eu un jeu de cartes Tim Burton, mais c'est seulement dans un but marketing. L'idée, c'est de vraiment essayer de faire comprendre aussi que c'est pas que un outil marketing pour des artistes, et aussi un objet artistique à part entière.
Ouais. C'est surtout, et là j'insiste là-dessus, c'est surtout un moyen de transmettre une émotion à des personnes, et que ça soit On n'est pas obligé d'avoir forcément un jeu hyper thématisé pour transmettre une émotion. Moi, je fais beaucoup de jeux abstraits, donc des jeux sans thème et surtout des jeux de réflexion.
T'as des références, des exemples pour illustrer ?
Alors, c'est un jeu qui va sortir, mais en juin, et ça s'appellera Yoxi, avec Yoxii. Et donc ce jeu, c'est un peu dans le style de Quarto, des échecs, on va dire, comme les échecs. Et en fait, on a quand même quelque chose qu'on veut transmettre. Moi, à travers ce jeu, j'ai envie de transmettre quelque chose. J'ai envie de transmettre, élever un peu l'esprit des gens, à s'occuper, à réfléchir. Voilà, ça, pour moi, c'est plus que juste divertir simplement. Ça appelle à d'autres choses, à d'autres émotions.
Et je voulais qu'on aborde avec toi justement le rôle du jeu de société d'un point de vue aussi social. Parce que c'est quand même un moment partagé, une activité divertissante dans laquelle on est pleinement actif, pas du tout passif. C'est vital selon toi la dimension de jeu un peu chez l'être humain ?
Pour moi, le plus important, ça va être le lien social. En fait. C'est le plus important. Moi, je trouve ça magique en fait, que ça puisse réunir autant de personnes très différentes. Ça peut être issu de classes sociales différentes, l'âge différent, des pays différents. Voilà, de cultures différentes, ça je trouve ça génial qu'on se retrouve autour d'une table, autour d'un objet, autour d'un jeu et on va comme ça créer du lien. Moi je trouve que c'est une des principales missions des jeux. Voilà, de créer du lien, aussi bien sûr de divertir, de laisser passer des messages, mais le lien social je trouve qu'il est vraiment très important.
Et tu parlais tout à l'heure de la SAGE, donc la Société des auteurs de jeux, si je ne dis pas de bêtises. Vis-à-vis de laquelle les auteurs et autrices de jeux de société, vous vouliez faire reconnaître un statut d'auteurice. Comment justement vous voulez le faire reconnaître ? Comment on peut arriver un jour à vivre du métier de jeu de société ? Parce qu'à ma connaissance, on n'en vit pas vraiment aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises.
Alors, il y a des auteurs et des autrices qui vivent de ça. Mais il y en a très très peu qui vivent que de ça. C'est un milieu, c'est un peu comme le livre. Hein. C'est vrai que souvent on pense que toutes les personnes qui écrivent des livres, elles vivent de ça. Donc c'est complètement faux. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui écrivent des livres, mais c'est pas leur revenu principal. Mais dans le jeu de société, c'est pareil. Alors ce n'est pas pour en faire une profession à temps complet de reconnaître ça, mais c'est au moins déjà de reconnaître le statut pour que on puisse déjà, d'avoir un bon complément de revenu, que ça puisse rentrer voilà, comme un revenu, et pourquoi pas après professionnaliser un peu plus, peut-être pour que des personnes soient en temps complet. Il y a des personnes aujourd'hui qui vivent que de ça, mais elles n'ont pas vraiment de statut. Donc c'est quand même compliqué.
Oui, et puis surtout que ça implique différents corps de métier. À tous les niveaux de la création, il y a de l'illustration, il y a du design, il y a de la création, il y a de la logique. Ça engage les différents acteurs du domaine de l'art finalement. Et là, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure.
Alors tout ça, par contre, c'est beaucoup plus simple parce qu'au niveau de tout ce qui est illustration, on va dire, il y a des statuts qui existent pour ça. Les éditeurs aussi. Mais c'est vraiment le statut d'auteur et d'autrice. Là, c'est vraiment... il n'y a rien aujourd'hui de dessiné, quoi. Rien du tout.
Et justement, par rapport à ce statut d'auteur, d'autrice de jeux de société, écrire un jeu de société, créer un jeu de société, ça implique des choses extrêmement diverses parce que ça va de créer une mécanique d'un jeu à parfois écrire des histoires, créer des univers parce qu'il y a aussi pas mal de jeux narratifs exister ou même quel que soit le type de jeu, un univers extrêmement précis qui est créé parfois même pour le jeu. Comment justement l'idée aussi de ce statut d'auteur et d'autrice, c'est de centraliser un peu toutes ces compétences, parce que ça englobe beaucoup de choses, autrice et auteur de jeux de société.
Et oui, ça englobe énormément de choses, mais principalement, on va dire, ça reste quand même la mécanique, en fait. C'est une mécanique de jeu, c'est ça qui est réellement, on va dire, créé à la base. Après, il y a bien sûr une partie narrative dans les jeux, mais ce n'est pas la grande majorité quand même. Hein. C'est vraiment pas la grande majorité. J'ai envie de dire que le travail de narration, il est souvent fait avec l'éditeur. C'est rare qu'un éditeur prenne un jeu 100% narratif avec la narration que l'auteur ou l'autrice avait déjà écrit. C'est vraiment une mécanique de jeu. Ça va être... on peut présenter deux jeux avec des cartes, avec des tout en noir et blanc, sans aucune illustration, et plaire à un éditeur, et derrière, il nous embarque dans l'aventure.
Ce qu'on appelle un prototype.
Exactement, ouais, tout à fait.
Avec des phases...
Les prototypes sont souvent, des fois, sans thème. Hein.
Avec des phases de test plus ou moins longues, j'imagine, On va contacter des joueurs.
Ça dépend des jeux. Hein. Ça dépend des jeux. Il y a des jeux qui ont marché de suite et qui ont fait, bon, ok, c'est bon, ça marche, on garde tout et on l'édite comme ça. Mais la plupart des jeux demandent du développement quand même. Hein.
Bien sûr.
Et ça demande du développement.
Public, hein, surtout. Hein. Les festivals sont faits pour ça. Alors, souvent, d'ailleurs, ça a été très compliqué dans la période dans laquelle nous vivons aujourd'hui.
Bien sûr.
Jusqu'à présent, c'était qu'il n'y avait plus de festival de jeux. Et les éditeurs avaient beaucoup de mal à avoir des tests et des retours de joueurs. Et donc, c'était très, très compliqué. Aujourd'hui, c'est en train de se débloquer un petit peu, donc ça, c'est cool.
Il y a un retour un peu, effectivement, des festivals de jeux de société. Il y avait les As d'Or, si je ne dis pas de bêtises, il y a un mois,
oui,
notamment. Donc, c'est le festival de Cannes des jeux de société.
Oui.
Est-ce qu'il y a aussi d'autres exemples de festivals de jeux dont tu peux nous parler? Comment ça, et aussi un peu nous parler de la vie d'un jeu, quoi, à partir
alors,
de... c'est un peu comme
alors,
un...
Ce qui est génial, c'est que... Bon, déjà, des festivals de jeux, il y en a vraiment énormément. Et Subverti, si vous allez sur son site internet, il répertorie sur une carte de la France quasiment tous les festivals qui se passent en fait avec les dates, les lieux.
C'est
donc ça, c'est, si vous écoutez, bah, vous pourrez aller sur le site de Subverti, vous verrez, il y a maintenant ils vont créer en plus une carte avec les associations aussi, donc voilà. Et après, pour revenir sur les festivals, c'est vraiment l'occasion de faire découvrir les jeux, mais surtout de tester les jeux. Pour avoir un retour et justement faire des réglages avec les retours des personnes. Quoi.
Oui, directement. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de tes futurs projets, si tu en as?
Alors, j'ai le futur vraiment projet, c'est Yoxi, donc c'est un jeu abstrait.
D'accord.
Et après, j'ai plein de jeux qui sont chez des éditeurs, mais je ne peux pas encore en parler parce que j'ai rien signé, il n'y a rien d'officiel. J'attends des réponses.
D'accord.
Mais le prochain jeu, ça va être un jeu donc, qui va s'appeler Yoxi. J'ai écrit aussi un livre avant de faire Dictopia, j'ai écrit un livre de jeu aussi.
D'accord.
Ça s'appelle Énigme, Arbre et Ptymologique. En fait, c'est un jeu d'association de mots. Donc, dans le livre, vous allez retrouver des mots et il va falloir trouver un mot qui fasse le lien avec trois mots.
Donc,
vous verrez, je ne sais pas si je peux faire une énigme là maintenant, mais, mais en gros, c'est je vais vous donner par exemple le mot... Je vais vous donner le mot cœur, le mot feu et le mot vivre. Il faut trouver un mot avec cœur, feu et vivre.
Il faut trouver un mot. C'est ce type d'énigmes qui sont proposées.
Il faut trouver le mot joie parce que c'est à cœur joie, la joie de vivre.
Feu de joie.
Et un feu de joie.
C'est
voilà,
ça.
Donc c'était le mot
des
joies.
C'est
tout un livre, j'ai fait tout, il y en a 400 comme ça, d'associations de mots comme ça.
Et on invite les auditrices et les auditeurs de Feu d'Artifice à aller consulter ce livre et essayer de le trouver aussi, d'aller trouver Dictopia édité par Subverti. Avant de... Déjà, merci d'avoir été avec nous. On t'a demandé une pause musicale. Quelle a été ton... Tu nous as proposé une musique de Ina de Yard. Est-ce que tu veux nous en parler vraiment en quelques mots, puisqu'on t'a, on t'a proposé de choisir une musique pour l'émission.
Alors déjà, j'étais super content qu'on me demande de choisir une musique parce que j'adore vraiment la musique. Et Ina de Yard, c'est vraiment c'est un collectif de chanteurs. Ils ont fait une chanson sur Malcolm X, donc que je trouve sublime. Et en fait, il faut juste l'écouter, se laisser porter, vous verrez.
Et on l'écoute tout de suite. Alors merci beaucoup, Jérémy Partinico, d'avoir été avec
merci.
Nous.
Merci. Merci pour votre invitation, c'était vraiment génial. Merci beaucoup.
Merci à,
merci à toi.
Merci.
Attention! Yeah. greed and brutality. Rush back across the sea.
C'était Malcolm X de Ina The Yard en featuring avec Winston McAnuff. C'était le choix de Jérémy Partinico qu'on remercie encore d'être passé par le plateau de Feu d'Artifice. Il est 20h49.
Vous écoutez Feu d'Artifice sur Radio Campus Paris.
Vous écoutez toujours Feu d'Artifice, l'émission qui met un doigt dans la culture et qui touche bientôt à sa fin. Mais d'abord, c'est l'heure de laisser à André, de laisser la place à André pour son...
De laisser André, on le laisse. Au revoir, André.
De laisser André nous parler de son culto quiz.
Eh ben bonsoir, bonsoir.
On fera un générique pour la prochaine.
Oui, maintenant que c'est devenu un concept, le culto quiz, très marqué, tout ça, j'ai tout balancé, je suis riche maintenant, grâce au culto quiz. Bref, du coup, maintenant que je suis riche, je propose des variantes du culto quiz, et notamment ce soir, un culto quiz musical.
Oui.
Spécial chanson originale. Mais qu'est-ce quoi qu'est-ce ? Chanson originale parce que je vais vous passer des reprises de morceaux que vous connaissez sûrement, je l'espère en tout cas, mais qui sont dans une autre langue et vous allez devoir me dire le titre original ainsi que l'interprète de la chanson originale.
D'accord.
Si c'est pas clair, avant ça, donc vous aurez un point si vous trouvez... Si vous trouvez le titre original ainsi que son interprète, vous aurez aussi également un point bonus si vous connaissez la personne qui a du coup fait la reprise dans l'autre langue.
D'accord.
Et possiblement son titre, bien évidemment, s'il a été traduit ou s'il diffère. Si c'est
Camille
pas clair,
va gagner ce jeu puisqu'elle joue avec nous. Salut Camille.
J'espère.
Et
bonsoir.
Le public joue avec
et
nous.
Oui,
aussi.
Et oui,
le public joue avec
moi. Le public aussi a le droit de participer. Je suis sûr que Camille va être très très douée là-dedans. On va faire un petit test assez simple avec la première qui est une reprise assez connue.
Je l'ai déjà.
Ouais, on va peut-être essayer de... C'était très simple. Mais avant, on va écouter peut-être...
Je l'ai pas mourir. Soy el guardián de sus sueños de amor. La quiero morir.
C'est effectivement Je l'aime à mourir. De qui ?
De Shakira ?
Non, c'est ouais, c'est de Shakira.
C'est
okay.
Et du coup, c'est
l'original,
Cabrel.
C'est Francis Cabrel. On partage les points, du coup.
Ouais. On écoute, et on pendant s'écoute qu'on partage, peut-être effectivement. Pendant que tu notes les points, on écoute un petit bout de l'original.
De Francis Cabrel.
C'est pas la même tonin.
Ouais, c'est
super,
un peu plus dans
c'est
les.
Très, ouais.
Moi, je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui. Je suis le gardien du sommeil de ces nuits.
C'est vachement plus dans les aigus, quoi.
Et est-ce que vous savez un peu pourquoi cette reprise par Shakira de Francis Cabrel?
Parce qu'elle aime bien Francis Cabrel.
Parce que Francis Cabrel l'avait écrite en espagnol, cette chanson aussi. Elle tournait en Amérique latine pas mal. C'était une chanson qu'avait écouté Shakira quand elle était petite.
Lui-même a écrit les paroles. Il a écrit en français et en espagnol.
C'est ça, tout à fait. Moi, je ne savais pas du tout.
Mais c'est formidable.
Comme quoi, tout peut arriver. Shakira peut chanter Francis Cabrel. Bon, c'était une petite simple pour vous mettre
petite
dans le bain. Mais vous allez voir qu'en termes de copie et de reprise, la France n'est pas dégueu non plus avec ce deuxième extrait.
Dies irae, dies ira. Ah non. La sonnerie du collège Jean Moulin.
C'est rock.
Et dis réveille-toi, tu dors depuis des heures. Crois-moi, il est bien temps de songer au labeur. Au lieu d'aller traîner dans les boîtes de nuit et de passer ton temps à boire du whisky, crois-moi, tu ferais mieux d'apprendre à travailler qu'à dormir mes bras en l'air. Yeah, 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 alors sois bon. Hey, dis sois bon, sois bon.
Vous l'avez pas?
Johnny Be Good,
non? J'ai sur le bout de la langue.
C'est tout à fait ça, je l'ai entendu.
Johnny Be Good.
C'est Johnny Be Good. Eddie, sois bon, sois bon.
C'est Chuck Berry, c'est ça?
Yes. Ouais, c'est Chuck Berry, Johnny Be Good, traduite de façon très littérale par les Chaussettes Noires, aka le groupe de Eddie Mitchell. Vraiment très très littéral, parce que c'était un peu une tendance de ce qu'on appelle les yeyeys, soit la bande autour de Johnny, Eddie Dutron et compagnie.
Pour moi, cette chanson, c'est vraiment Retour vers le futur, la scène à la fin, là, quand il la joue.
Elle est incroyable, cette chanson. On se l'écoute encore un peu.
Un point sur les scores.
Et je me mets un point parce que je vous ai spoilé le fait de vous dire que c'était les Chaussettes Noires et Eddie Mitchell derrière tout ça. Donc le point bonus me revient de droit. Mais Simon, du coup, a également un point.
Yes. Et Agathe, elle a trouvé Chuck Berry?
Oui, j'ai trouvé Chuck Berry.
Oui, de ouf.
Bah alors, merci,
ah oui,
merci Simon.
Oui, oui. Alors en demi-point,
ça m'avantage pas. Je vais vous lire. Je suis en train de remonter là, mais.
Voilà. Allez, on continue avec ce culte quiz spécial reprise musicale avec un léger changement de règle. Là, j'instaure un changement d'un coup là maintenant.
Mais c'est abusé,
vous
c'est pas
devez
possible.
Pas trouver. Vous devez pas forcément trouver le.
La chanson.
L'interprète de la reprise. Vous devez toujours trouver le titre original et
l'interprète original.
Mais pas forcément l'interprète de la reprise, parce que ça va être compliqué. Par contre, au moins la langue qui est utilisée pour cette reprise là, on s'écoute l'extrait numéro 3.
Rien compris.
C'est une reprise d'une chanson très connue.
Ah, ça me dit grave un truc.
Moi aussi, mais là je l'ai pas.
Wallow, Wallow, ta love.
Non, c'est Bang Bang.
Félicitations, c'est Bang Bang. Camille avait raison. Est-ce que vous avez la langue?
Je vais pas m'aventurer à faire des propositions.
Italien?
Non, pas du tout.
C'est pas japonais?
Non, c'est presque. C'est chinois. C'est Betty Chung qui nous propose cette reprise. Enfin, c'est en tout cas plus asiatique.
Enfin, l'Arcom maintenant.
C'est Betty Chung qui nous propose cette reprise, qui est une actrice hongkongaise des années 60-70 et qui est très très connue à Hong Kong, notamment pour sa voix mélodieuse.
C'est vrai que c'est beau.
C'est très joli, effectivement. Un petit bout d'original quand même, ouais.
Et du coup.
C'est pas
classique,
Bang Bang, c'est Kill Bill.
La culte.
C'est long.
Bang Bang de Nancy Sinatra. I was five and he was six. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. Cette chanson qui n'est pourtant pas l'original, Bang Bang a été écrite par Sonny Bono.
Moi, je connais une version italienne de cette chanson.
Alors, il y a effectivement plein de versions, sûrement une italienne aussi, mais l'original, ça a été écrit par Sonny Bono, aka le mari de Cher, pour Cher.
Ah.
Et c'est Cher qui l'a du coup chanté pour la première fois la même année où elle a été reprise par Nancy Sinatra.
Et bien, encore voilà un autre jeu ludique, on en apprend.
Allez, on enchaîne avec le petit extrait numéro 4, toujours dans le même esprit et les mêmes règles.
Quelle règle ? Parce que t'en avais 46 là.
Félicitations,
bravo.
Camille qui remonte dans les scores de suite. Et là, pareil, petite question bonus, est-ce que vous avez la langue ?
Le public là ?
Le public. Ah. Et dans le public, j'ai cru entendre japonais. Et du coup, un point pour le public. Félicitations.
Le public a un point. Le public est.
Donc on peut s'écouter l'original, bien évidemment, que tout le monde connaît. J'espère en tout cas.
Je suis une poupée de cire, une poupée de son.
Comme quoi, il n'y a pas que les Américains qui se font piquer leurs chansons cultes, il y a aussi les Français.
Effectivement, on en a une.
Est-ce qu'on a le temps pour une petite dernière bonus ou pas du tout ?
Toute dernière.
Une tour de dernière très rapide, je vous mets l'extrait numéro 5. Mon avis, c'est simple. Vous n'allez pas la trouver, mais je voulais quand même vous la passer. Est-ce que vous connaissez peut-être ce titre ?
Bah c'est pas genre les portes du pénitencier, ça commence
c'est
un peu pareil.
C'est pas du Ennio Morricone.
Ça commence un peu en mode Ennio Morricone. Alors c'est un titre de Polo et Pan qui s'appelle Annie Cooney 2021, donc très récent.
Ah bah oui.
Et je vous fais écouter la version originale. C'est pas tout à fait une reprise, c'est plus un remix, mais la version originale.
Ouais. Ah oui, je connais celle-là.
Ouais, elle est pas mal. Hein.
Oui, les chansons obscures d'André.
Alors, comment vous expliquer cette, cette reprise, en fait, c'est Polo et Pan qui ont repris un chant, une prière amérindienne, qui a été chantée du coup pour la première fois par Madeleine Chartrand, une Québécoise. Je vous traduis un peu les paroles. Père, ayez pitié de moi, car je meurs de soif, tout a disparu, je n'ai rien à manger. Comme quoi, on peut faire un tube en 2021 avec les prières des miséreux, avec un peu d'appropriation culturelle.
C'est le moment de fin de André ce culte quiz qui a été remporté par Camille, si je ne m'abuse.
Tout
c'est déjà
fait.
La fin de Feu d'Artifice. Merci encore à Jérémy Partinico d'avoir été avec nous. Son jeu de lettres engagé, Dictopia, est dès à présent disponible en ligne sur le site de Subverti. Merci à André pour son culte quiz musical, au public qui a joué avec nous un infini. Merci à Camille pour la réalisation et merci à toi, Agathe.
Et merci à toi, Simon. Ce sera à 22h, vous retrouvez un nouveau numéro de la carte blanche où Mylène recevra les membres du label Heavenly Sweetness. On vous dit ciao pour aujourd'hui et à la prochaine le 26 avril.
Le 23 avril.
Des bisous.
Avril.
Ciao.